Bonjour à tous. Je vous propose un texte dans 1 Chronique 4. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous lire une généalogie, mais c'est un texte qu'on ne lit pas souvent, et qui se trouve justement donc en plein milieu d'une liste de noms de généalogie. Et c'est l'histoire de Yabetz. Alors c'est 1 Chronique 4, les versets 9 et 10, deux petits versets. Yabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yabetz, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors dans les généalogies de l'Ancien Testament étaient souvent, assez fréquemment en tout cas, insérées de courtes histoires, et certaines de ces histoires avaient pour thème l'exaucement des prières sincères, des prières faites du plus profond de soi-même, du cœur. Alors, un peu plus loin, dans le même livre des 1 Chronique, au chapitre 5 et au verset 20, il est ainsi écrit « Ils reçurent les Israélites du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. En effet, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu et il les exauça parce qu'ils avaient placé leur confiance en lui. » Sur le même thème de l'exaucement des prières, au chapitre 4, donc du premier livre, le texte que nous venons de lire. Et ce texte est intercalé, donc, au milieu de listes de noms, de généalogies. Et c'est l'histoire de Yabetz. Alors, on ne connaît rien de sa généalogie, justement. C'est un peu étonnant. Sa généalogie n'est pas précisée. On ne connaît pas le nom de ses pères et mères. Rien n'est mentionné de cela. Les seules précisions que le chroniste nous indique, est que le nom de Yabetz lui a été donné parce qu'il a été enfanté dans la douleur. Sa maman a eu beaucoup de difficultés à le mettre au monde. Et donc le nom Yabetz est une assonance avec le mot hébreu de douleur et de souffrance. Et l'on apprend également, que Yabetz était honoré, plus honoré que ses frères. Donc il avait une place importante dans sa famille. C'est souvent le cas lorsque, eh bien, un enfant né avec beaucoup de difficultés, il est davantage choyé et voilà, il tient une place plus importante. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour Yabetz. Donc voilà tout ce que le chroniste nous indique, nous apprend sur les origines de ce Yabetz. Et pour le reste, parce que il y a plus de contenu que cela dans ces deux versets, eh bien, Yabetz passe dans l'histoire, et c'est là vraiment la chose la plus importante hein, pour nous et sur laquelle nous allons. Je vais développer cela ce matin. Jabez passe dans l'histoire pour une prière exaucée, dans laquelle il demande à Dieu, premièrement, de le bénir, deuxièmement, de l'aider dans son travail, troisièmement, de l'assister dans toutes ses activités, et quatrièmement, de le préserver du mal et de la souffrance. Il faut savoir que les chroniques s'adressent aux Juifs qui reviennent de l'exil à Babylone, après la destruction du Temple. Et donc les chroniques ont été écrites à ce moment-là, et ces textes avaient pour objectif de montrer à ces Juifs post-exiliques eh bien, que l'histoire d'Israël remontait à Adam et que, eh bien, il y avait une importance spirituelle à bien comprendre eh bien, que ce peuple était le résultat des promesses de Dieu. Il était particulièrement important pour cette nation juive renaissante, revenue de l'exil, de comprendre que leur identité était liée à Dieu et à son œuvre, et que leur histoire remontait des millénaires avant cet événement de la destruction du royaume du Sud et de l'exil. Le passé d'Israël constituait une base sûre, et c'est vraiment la volonté du chroniste là, le passé d'Israël constituait une base sûre pour la reconstruction. La révélation des promesses de Dieu pour son peuple permet à ces derniers, à ce dernier, pardon, d'avoir confiance que ce Dieu-là tient toujours parole. L'histoire courte de Jabez, un anonyme donc, hein, qui souligne que Dieu exauce les prières sincères de quiconque s'adresse à lui, place sa confiance en lui, ne pouvait avoir pour autre effet que d'exhorter ce peuple en quête de renouveau à faire de même. C'était un encouragement. Elle n'a d'autre effet sur nous, croyants, quelques 2500 ans après, que de nous exhorter pareillement à centrer, mes amis, à centrer nos vies sur Dieu, sur le Seigneur, et croire qu'il est celui qui exauce nos prières. Alors je développerai deux éléments principaux de la prière de Jabez. La bénédiction de Dieu, donc qui a des conséquences sur sa vie, le travail, les activités et la préservation, deuxième élément, la préservation du mal et de la souffrance. Premièrement, Jabez demande à Dieu de le bénir. Jabez est conscient que la bénédiction du Dieu de tout l'univers est la chose la plus extraordinaire qui soit. Une chose qui n'a pas de prix. Il a conscience que pour être béni par ce Dieu-là, il doit être prêt à le mettre au centre de sa vie, à la place la plus importante, à la première place, Plus précisément, il a compris que Dieu, le Dieu dont il s'agit, est un Dieu souverain. Sur le trône, celui qui règne, nous l'avons chanté tout à l'heure, au service duquel il veut se mettre. Et donc il le supplie de venir le bénir. Alors je paraphrase sa prière. Ah Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi la grâce d'être le Seigneur de mon travail. C'est rendu par l'expression dans le passage « étendre mes limites ». Fais-moi la grâce d'être le Seigneur de mon travail, de mes relations familiales et de mes moments de détente. Dieu n'est pas insensible à une prière sincère. Il est honoré lorsque ses enfants implorent sa bénédiction et sa protection. Dieu connaît les pensées des cœurs. Il distingue fort bien entre celui qui le prie en le confondant avec un distributeur automatique de bénédictions. Et celui qui demande, qui lui demande d'être au centre de sa vie. Ce n'est pas la même chose. D'être le Seigneur dans tous les aspects de sa vie. Jabez ne veut pas être béni pour le bien-être et les avantages matériels. Mais il veut être béni pour mener une vie épanouie avec son Dieu. C'est là le motif, la motivation de sa prière. En Proverbe 10, 22, il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » La bénédiction de Dieu est pour un épanouissement spirituel. Pour nous, lorsque nous demandons la bénédiction de Dieu sur nos vies, soyons, mes amis, pleinement conscients que la condition de Dieu est que nous soyons prêts à le placer au centre même de nos vies. N'oublions pas de demander que Dieu vienne nous diriger dans tous les aspects de nos vies. Travail, vie sentimentale, vie familiale, temps libre, relations avec les frères et sœurs, relations avec les gens du monde, etc. Dans tous ces domaines, Dieu doit être à la première place. C'est la place qui lui revient. Ses instructions qu'il nous donne dans sa parole doivent nous guider. Sa bénédiction ne peut pas intervenir si celui qui l'invoque ne s'aligne pas sur sa ligne de conduite, largement développée dans sa parole qui nous est transmise. Alors, une petite illustration, par exemple, un sujet de sa gracieuse majesté britannique, la reine d'Angleterre, lui demande, comme faveur personnelle, de pouvoir conduire à droite. Cette faveur, mes amis, ne lui sera jamais accordée, bien évidemment, car elle mettrait en danger cet homme et tous les Britanniques sur la route, parce que la conduite est à gauche. Il ne peut faire cette demande, ça n'a pas de sens. La bénédiction de Dieu sur Josué et le peuple d'Israël au moment de l'entrée dans la terre promise n'était-elle pas subordonnée à la fidélité à la parole de Dieu ? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous l'avons chanté aussi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est écrit dans Josué 1, les versets 8 à 9. Le secret de ces hommes que Dieu a bénis, de ces hommes qui l'ont mis au centre de leur vie, à la première place, est une vie de prière, nourrie, continuellement nourrie. La communion avec Dieu dans la prière est la chose la plus précieuse qui soit pour un croyant. Ces moments d'intimité avec le Seigneur sont une bénédiction à part entière. Pouvoir venir à lui dans toutes nos circonstances, telles que nous sommes, avec nos fardeaux, et de savoir que ce Dieu-là nous écoute et est prêt à nous bénir. C'est ça la bénédiction. Donc ces moments ont pour but de placer le croyant au cœur des enjeux spirituels. Demandez à Dieu selon sa volonté et non pour satisfaire nos passions. Jacques écrit quelque chose de semblable au verset 3 du chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et l'apôtre Jean de préciser dans sa première épître au chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui, Dieu, Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Les bénédictions que Dieu nous accorde nous encouragent à persévérer dans la prière. Paul n'a-t-il pas demandé de prier sans cesse ? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ce que Dieu accomplit dans nos vies nous encourage à avancer dans la vie spirituelle. Les Hébreux, quand ils étaient dans le désert, qu'il n'y avait pas d'eau, que c'était difficile, ils regardaient en arrière et ils pouvaient se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Comment il les avait sortis de l'esclavage dans le pays d'Égypte. Comment il les a fait traverser la mer Rouge. Comment il a englouti Pharaon et ses chars et ses soldats. Et ce n'est que quand ils ont oublié cela, à regarder ce que Dieu était capable de faire, que leur entendement s'est complètement inversé. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait et ils se sont rebellés contre lui en disant « Si seulement nous pouvions retourner en Égypte parce que nous avions des concombres là-bas à manger. Et maintenant ici, nous mourrons de faim. » Et Dieu n'a pas pu les bénir. Parce que leur courte vue, leur cœur dur, l'en a empêché. Et quand ils se souvenaient que Dieu était tout puissant et qu'il était capable de faire de grandes choses, c'est alors qu'il les a bénis. Ce que Dieu fait dans nos vies nous encourage à persévérer, à saisir les bénédictions qu'il veut nous donner comme des victoires sur nos circonstances, sur nos difficultés. Pour cela, mes amis, nous devons mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Alors je vous livre quelques applications pour nos vies. Si nous voulons être bénis, comme Jabès, si nous voulons être exaucés, confions-nous en lui. Vous lirez le psaume 40, les versets 4 à 5, qui illustrent bien cet aspect-là des choses. Confions-nous en lui pour ce qu'il est, un Dieu d'amour et de grâce, et non pour ce qu'il peut nous apporter. Il nous apporte tellement. Mais faisons-le pour ce qu'il est, lui. Confessons aux autres que Jésus est le Fils de Dieu. Luc 11, verset 28. Soyons assurés du pardon des péchés par un Dieu d'amour et de grâce et qu'il s'agira de la plus grande des bénédictions. Psaume 32, verset 1. Heureux, celui qui obtient le pardon. Et c'est une bonne transition pour la deuxième partie. Jabès demande à Dieu de le préserver du mal et de la souffrance. Jabès est pleinement conscient que le mal, le péché, met une séparation entre Dieu et les hommes. Il sait pertinemment que les conséquences de la chute d'Adam, les conséquences du péché originel, sont désastreuses pour l'humanité, dont il fait partie, dont nous faisons partie. Le mal, avec son lot de souffrances physiques et spirituelles, est dans la nature humaine, dans son cœur. Les motivations de l'homme sont mauvaises, nous dit la parole. Ses manières d'agir, ses désirs, ses pensées, ses attitudes le sont également. Le salaire du péché, c'est la mort. 86, verset 23. Iabeth demande tout particulièrement à être protégée du mal, préservée du malheur en lien avec sa nature pécheresse. Il vit dans un monde déchu, marqué par le péché. Nous vivons aujourd'hui dans un monde déchu, marqué par le péché. Ça n'a pas changé. Il est juste de demander à Dieu d'être gardé ainsi du mal, de ce mal qui l'entoure. Ainsi que de celui qu'il commet, qu'il peut commettre. Il y a là de bonnes applications pour nous, les croyants, régénérés en Jésus-Christ. Demandons-lui de nous garder dans nos manières d'agir, une manière de penser. Tout en veillant nous-mêmes à nourrir notre esprit de façon saine. La manière la plus saine de le faire est de nous plonger dans sa parole, de la méditer nuit et jour. Les disciples ont dit à Jésus, « À qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie. Il faut bien comprendre que l'homme n'arrive pas à régler tout seul la question du mal. Ce n'est pas dans son pouvoir. Il est incapable de le faire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Iabeth le sait. À telle enseigne qu'il fait appel à Dieu. Il lui demande de l'aider. Il lui demande de le garder, de le préserver de ce mal et de la souffrance qui en est la conséquence. Jésus, notre modèle, notre exemple, celui à qui nous sommes appelés à ressembler, ne nous a-t-il pas enseigné de prier ainsi dans le Notre Père, délivre-nous du mal ? Matthieu 6, verset 13. Si nous demandons à Dieu d'être délivré du mal, il faut bien comprendre toute l'étendue de cette prière. Dieu, en effet, est le mal et le condamne. Haïr est le mal et le condamne. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu, Jésus, est venu mourir pour les hommes sur la croix, pour les pécheurs que nous sommes. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. L'homme reste donc débiteur. C'est par grâce qu'il est sauvé. Éphésiens 2, verset 8. Iabeth savait cela. Et sa prière démontre pleinement qu'il avait la foi que seul Dieu pouvait le garder et le préserver du mal et de la souffrance. Intolérable à tout croyant, la souffrance induite par le péché. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais souffert de cela ? C'est terrible de savoir ce Dieu qui a tout fait, qui a donné son Fils, son unique, qui l'a envoyé à la croix, à notre place, pour prendre notre condamnation. C'est terrible de voir que le péché est encore là. Et que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de sa bénédiction pour en être délivrés dans la réalité de nos vies, de nos entrailles. Mes amis, Dieu exauce toujours ce genre de prière-là. Parce qu'il vient du plus profond de notre être. Et nous crions, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Et cette prière est empreinte d'humilité. Parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil et les orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, vous trouvez cela. Et dans l'Ancien Testament aussi. Je vous laisse quelques bonnes applications pour adopter la bonne attitude à l'égard du mal, du péché. Nous avons à confesser nos péchés à Dieu et croire qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Nous nous devons d'abandonner les péchés. Psaume 34, verset 15. De les haïr. Romains 12, verset 9. De leur résister. Hébreux 12, verset 1. Et de les combattre. Éphésiens 6, verset 12 et 13. Et Hébreux 12, 4. Il y a de nombreuses bénédictions qui découlent de la confession des péchés. Le pardon, psaume 32, verset 5. Dieu nous acquitte, Romains 4, tout le chapitre. Nous sommes purifiés, 1 Jean 1, verset 9. Nous l'avons déjà lu. Nous ne sommes plus esclaves du péché, Romains 6, 6. Nous sommes morts au péché, Romains 6, 2, et la vie éternelle, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à déployer ces bonnes attitudes dans nos vies quotidiennes et saisir les bénédictions qui en découlent? N'oublions pas, je le redis, n'oublions pas que Dieu nous exauce lorsque nous lui demandons de l'aide pour mener une vie qui l'honore, une vie qui vaille la peine d'être vécue. En conclusion, Jabez aurait pu continuer à vivre sur ses lauriers. Pourquoi ? N'était-il pas le plus considéré d'entre ses frères ? Il a voulu que Dieu soit au centre de sa vie. C'était pour lui la chose la plus importante, et bien plus importante que la considération de ses frères. Il souhaitait vraiment mener une vie qui vaille la peine d'être vécue aux yeux de Dieu. La considération des hommes n'était pas son souci. Il a demandé la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il a demandé à être gardé du mal et de la souffrance. Le Seigneur exauce toujours ce type de prière. qui vient d'un cœur sincère et repentant. Et pour terminer, un petit passage dans Jérémie 17. Qui distingue entre les hommes qui se confient dans l'homme et les hommes qui se confient en Dieu. Jérémie 17, les versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.